Bienvenue sur le podcast du webmag Les French Mums. Dans chaque épisode, nous recevons une femme qui nous raconte une expérience particulière de sa vie de mère et comment cette expérience a enrichi sa maternité. À travers les récits personnels et intimes de ces warriors du quotidien qui façonnent les hommes et les femmes de demain, nous touchons du bout du doigt ce que veut dire être mère aujourd'hui. Nous sommes toutes parcourues par les mêmes questionnements, et les expériences de chacune peuvent nous inspirer et nous apporter des réponses pour les défis auxquels nous faisons face. Et c'est en nous inspirant les unes des autres que nous trouverons notre voie propre et que nous deviendrons peu à peu la femme que nous sommes appelées à être et ainsi la meilleure mère possible pour nos enfants. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Clémentine qui vient de boucler un voyage de 9 mois en camping-car sur la route de la soie avec son mari et leurs 4 filles. Elle nous raconte comment est née cette idée, quel pays ils ont traversé et en quoi ce voyage a transformé leur famille en profondeur. Comme c'est le premier entretien, il y a encore de nombreuses imperfections, des cloches d'église en fond ou un enfant qui tape sur la table, mais fait vaut mieux que parfait et j'espère donc que vous serez indulgents. Place maintenant à ma conversation avec Clémentine. Bonjour Clémentine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je t'accueille pour que tu nous parles d'un voyage de fou que tu viens de boucler avec ta famille et j'aurais voulu savoir comment d'où a germé cette idée. Comment vous est venue l'idée avec ton mari ?
Bonjour Amélie, merci pour cette invitation. Nous sommes partis en voyage une première fois quand nous avions à peu près 25 ans, juste au milieu de nos études, et nous avions toujours pensé refaire ça un jour avec nos enfants.
Et pourquoi la route de la soie ?
D'abord, nous avons commencé par réfléchir aux pays du monde que nous n'avions pas du tout explorés. Il se trouve que nous avions eu la chance d'habiter en Amérique et en Asie, Et par contre, nous ne connaissions pas du tout l'Asie centrale. De plus, avec 4 enfants, nous voulions un voyage qui ne les traumatise pas trop. Donc on voulait une certaine stabilité. Et bien que nous ne connaissions pas du tout le camping-car et ce mode particulier de voyage, on s'est dit que c'était en fait ce qu'il nous fallait pour que les enfants aient tous les jours le même lit, leur caisse de jeu, tout ce qu'il fallait pour l'école, de quoi lire. Et du coup... En partant de cette idée d'un voyage en camping-car, nous nous sommes dit quelle était la route qui nous paraissait naturelle depuis chez nous pour aller à l'autre bout du monde. Et c'est comme ça que nous avons regardé, qu'on a découvert cette route de la soie. Ce qui a été très intéressant, c'est qu'au départ, cette route qui passe par des zones quand même très inexplorées, enfin en tout cas ce ne sont pas les routes principales touristiques, cette route qui passe par la Turquie, mais ensuite par l'Iran, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, avant d'atteindre la Chine. Nous nous demandions si c'était possible. Et c'est en allant sur Internet que nous avons vu qu'une autre famille avait fait un voyage similaire avec de jeunes enfants 3 ans auparavant. Mm-hmm. Et on a vu ce blog et on s'est dit, ok, si eux l'ont fait, on pourra partir aussi.
Ok. Et combien de temps est-ce que vous avez mis à préparer ce voyage, que ce soit à vous préparer vous-même à cette idée, mais à penser à tout ce à quoi il fallait emporter et tout ça, à toute la logistique, parce que se déplacer à 6 avec une maison roulante, ça fait beaucoup de choses à prévoir.
Étonnamment, pas tant que ça. En vrai, peut-être parce que nous avons vécu à l'étranger, que nous avons l'âme voyageuse, ce n'était pas un projet qui nous paraissait compliqué à organiser. Il a fallu bien sûr trouver un temps dans nos vies où c'était possible. Donc là, il a fallu attendre le bon moment, le moment qui était vraiment la bonne opportunité par rapport à nos travaux respectifs, notre travail. Il se trouve qu'on a pu anticiper 2 ans à l'avance qu'une période allait se profiler qui serait favorable, mm-hmm. parce qu'elle correspondrait pour moi au moins à une fin de contrat. Donc on a visé longtemps à l'avance cette période pour être sûr de la poser et ne pas s'engager dans d'autres projets. Donc 2 ans à l'avance, on savait que cette période, que c'était le bon moment à viser. Ensuite, quant à la durée, notre premier voyage avait duré 1 an et d'expérience, ça peut paraître long, un an, mais finalement, ça passe très très vite.
Mm-hmm.
Pour autant, nous ne voulions pas non plus partir trop courtement, ni trop longtemps. On a réfléchi au temps qui serait idéal en famille, et on s'est dit finalement 9 mois, c'était parfait pour nous, parce qu'on ne voulait pas couper les enfants dans leur année scolaire. Donc on a attendu la fin de l'année, juillet, et puis on voulait rentrer vers avril, pour que notamment notre grande qui rentrait en 6e l'année suivante ait un petit peu de temps pour s'acclimater avec cette idée. Et aussi, on pensait que rentrer vers le mois d'avril, c'était une période encore assez favorable pour chercher un travail mmh. au retour.
Mmh.
Maintenant, la préparation concrète du voyage. Une fois qu'on savait à peu près quand on voulait planifier ce grand départ, on s'y est mis un peu moins de 6 mois à l'avance.
D'accord.
C'est ce qu'il faut pour décider la route,
mmh.
faire les vaccins, faire les visas.
Oui.
Donc je dirais que 6 mois, c'est idéal. Les visas, c'était une période, c'était une chose importante à regarder pour nous, puisque nous partions par des pays pour lesquels l'obtention n'était pas toujours très facile.
Mm-hmm.
Par exemple, le visa turkmène est assez compliqué à obtenir. Il fallait que nous ayons un ordre très précis d'obtention, donc il fallait qu'on ait déjà le visa ouzbek et le visa, iranien, pour pouvoir prouver que nous n'étions qu'en transit.
D'accord.
Et voilà, il y avait un certain nombre de choses à organiser à l'avance. Mmh. Mais finalement, voilà, on s'y est pris 6 mois à l'avance.
Il faut bien se renseigner avant de pouvoir faire toutes les démarches.
Voilà. Mmh. Donc vraiment, les visas, les vaccins, acheter le véhicule dans notre cas. Ouais. C'est pareil, on s'y est pris 6 mois à l'avance. On sait qu'en France, un certain nombre de choses administratives prennent du temps. Donc mmh. on voulait être sûr d'avoir la carte grise.
Mmh.
Une autre chose, il nous fallait 2 papiers supplémentaires indispensables. Il nous fallait le permis de conduire international.
Oui.
En Suisse, il s'obtient en claquant des doigts en une demi-heure. En France, il a fallu vraiment il fallait planifier 6 mois à l'avance.
D'accord.
Donc ça, c'était important. Et enfin, pour le véhicule, il fallait ce qu'on appelle un carnet de douane. Ensuite, il y a eu une part de rêve qui était formidable, qui consistait à regarder cette carte du monde et à rêver, imaginer
oui.
ce que nous allions découvrir.
Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le trajet que vous avez fait ?
Nous sommes donc passés par un couloir utilisé depuis des millénaires par les hommes qui relie l'Asie et l'Europe. C'était pour nous très important de respecter justement une de ces routes qui ont une vraie histoire, de marcher sur les pas de ces gens qui reliaient l'Asie et l'Europe il y a des centaines d'années.
Mmh.
Et donc, nous avons choisi une route qui passe plutôt par le sud. Il a fallu faire attention, hélas, à éviter toutes les zones de conflit,
mm-hmm.
parce qu'on ne voulait pas de prendre de risques. Nous voyageons avec 4 enfants, donc
bien
on ne voulait pas du tout prendre de risques.
Mettre en danger à quelques moments que ce soit, j'imagine.
Donc pour ça, il y a des sites très bien faits, notamment en France, on a le site de la diplomatie française qui montre sur la carte les zones qui sont fortement déconseillées, où on est juste censé ne pas aller.
Mm-hmm.
Et du coup, nous sommes passés nous avons commencé la route par Venise, quoi.
D'accord.
L'endroit des échanges. Pour nous, un point très important pour notre histoire personnelle, puisque c'est à Venise que mon mari et moi nous sommes mis ensemble, nous sommes embrassés pour la première fois.
Mm-hmm.
Revisiter cette ville avec nos 4 filles, c'était un moment très émouvant
mm-hmm,
et un passage obligatoire.
Mm-hmm.
Ensuite, nous avons foncé vers Istanbul, puisque le but n'était pas de visiter vraiment l'Europe, mais plutôt de commencer cette route. Et Istanbul est une autre ville très importante, bien sûr, très proche de l'ancien empire, une des capitales de l'ancien empire ottoman, mmh. mais aussi de l'empire byzantin.
Bien sûr.
Et c'était extraordinaire de pouvoir visiter cette ville avec les enfants, c'était magnifique. Et ensuite, nous avons traversé toute la Turquie pour découvrir des régions que nous ne connaissions pas du tout et qui sont... La Turquie nous a beaucoup marqué, beaucoup plu. Ensuite, nous avons continué vers l'Iran. C'était magnifique aussi. Bien sûr, l'ancien empire perse. Il y avait aussi des choses très intéressantes pour nous à découvrir, puisque nous sommes chrétiens, sur tous ces chrétiens d'Orient qui avaient vécu et vivaient encore dans ces pays que nous traversions.
Mmh.
Nous avons poursuivi vers le Turkménistan. Le Turkménistan est un pays encore aujourd'hui très fermé, une dictature assez effrayante, une république en fait qui est quand même pas loin d'une dictature,
oui.
qui peut faire penser en même temps à Las Vegas et à la Corée du Nord, puisqu'il y a beaucoup de richesses à cause de
gisements. Étrange mélange.
Oui, des gisements de gaz qui ont été retrouvés là-bas, qui ont rendu très riches les oligarques au pouvoir. Et c'est un pays très, très spécial.
Ouais.
Traversé du premier... Enfin, un désert exceptionnel aussi que nous avons traversé. Puis nous sommes arrivés en Ouzbékistan. Là, c'était fabuleux puisque c'était les villes emblématiques de Samarkand, de Boukhara, de Kiva. Ce sont des villes qui, pour nous... Nous faisait penser à des atmosphères extraordinaires et pouvoir aller là-bas, nous retrouver dans ces villes mythiques, c'était fabuleux. Nous avons poursuivi après l'Ouzbékistan vers, on va dire, les confins de l'Ouzbékistan et la limite avec le Kirghizistan. Il y a là des zones pareilles, des foyers de peuplement millénaires avec des traditions très anciennes, des artisanats exceptionnels que nous ne connaissions absolument pas avant de partir. En fait, c'est comme si notre vision du monde s'était ouverte avec ce voyage. Vraiment, on a découvert des zones entières dont on ne soupçonnait même pas l'existence, et des gens aussi merveilleux. Puis de là, nous sommes allés au Kirghizistan, et le Kirghizistan, nous n'y sommes restés que 2 semaines, parce qu'il fallait vite passer les contreforts de l'Himalaya, avant qu'il y ait trop de neige.
D'accord.
C'était quand même des cols très élevés, nous étions déjà presque en novembre, donc le Kirghizistan, j'espère qu'on y retournera un jour. Et là, pour le coup, on parle de paysages fabuleux. Nous avions au sud les Pamirs, au nord les Monts Célestes. Et c'était une grande émotion de passer par ces couloirs qui, à nouveau, étaient probablement les seuls moyens de communication entre la Chine et l'Ouest. Il faut bien voir que si on regarde une carte de ces régions... le fait que nos civilisations aient évolué de façon si indépendante pendant des siècles, c'est lié à des contingences géographiques incroyables. Car il y a ces hautes montagnes, mais aussi des déserts comme l'œil du Taklamakan que l'on voit très bien de satellite, qui est un de ces déserts absolument arides que l'on ne peut même pas traverser. Même encore aujourd'hui, c'est très compliqué de les traverser. Et c'était intéressant d'ailleurs parce que juste à cet endroit du Kirghizistan et de la Chine, il y a une frontière entre les dromadaires et les chameaux. Avant, c'est que des dromadaires, après, c'est que des chameaux. Enfin, voilà. Donc, nous avons ensuite poursuivi vers la Chine jusqu'à l'ancienne capitale de l'Empire chinois qui était justement au cœur de ces routes de la soie, qui est la ville de Xi'an. C'est aussi la ville où on a découvert la célèbre armée de terre.
D'accord.
Voilà, on est allé jusqu'à Xi'an. Puis ensuite, nous avons décidé de poursuivre vers le sud. On a traversé toute la Chine vers le sud. Une myriade de peuples différents et des cultures différentes, des traditions très différentes. Pour nous, c'était comme un retour à la maison, car il se trouve que nous avons vécu en Chine 2 ans. C'est même une de nos filles qui est née là-bas. Donc on était vraiment très heureux de revenir, de pouvoir traverser la Chine avec notre propre véhicule. Et la Chine, c'est un continent. Voilà, on a dû parcourir plus de 8800 km en un mois.
C'était très intense comme rythme.
Et en même temps, beaucoup de visites. Là, c'était aussi une période très heureuse parce qu'on a traversé la Chine avec une autre famille qui voyageait aussi en camping-car. Parce qu'il se trouve que la Chine ne peut être traversée de façon complètement indépendante. Il faut un permis spécial pour entrer avec son propre véhicule. Ce sont des démarches très coûteuses. Et donc, c'est bien de se mettre en convoi pour limiter les frais.
D'accord.
Donc, c'était l'occasion de voyager avec une autre famille. C'était super. Ensuite, nous sommes partis en Asie du Sud-Est. Nous sommes entrés par le Laos, pays dans lequel nous avons fêté Noël. Le doux Laos, le Laos des montagnes et des moines bouddhistes. C'était une grande douceur d'arriver au Laos après la Chine qui reste un pays très rude par bien des aspects. Depuis le Laos, nous avons été visiter le Vietnam en sac à dos puisqu'on ne peut pas du tout rentrer véhiculé au Vietnam.
D'accord.
Puis, après le Vietnam, nous sommes retournés au Laos, avons visité la Thaïlande. La Thaïlande était une autre découverte, puisque nous pensions que la Thaïlande serait trop touristique après tous ces endroits que nous avons visités. Et en fait, non, la Thaïlande était vraiment extraordinaire en camping-car. On s'est retrouvés sur des îles quasi désertes et vraiment à vivre des choses très belles avec la population. C'est un pays fabuleux.
J'imagine que... Le moyen de transport vous permet aussi d'accéder à des zones qui sont un peu éloignées des zones touristiques.
Absolument. C'est une des joies du camping-car, c'est qu'on pouvait aller où l'on voulait, s'installer sur des plages, dans des sites merveilleux. Les gens étaient partout accueillants, il n'y a pas du tout toutes ces contraintes que l'on a en Europe avec un camping-car. Là, les gens étaient toujours bienveillants. Bien sûr, il fallait poser la question, mais on pouvait se garer absolument où l'on voulait. Mmh. Et c'était formidable. Et puis, après la Thaïlande, nous sommes allés en Malaisie, qui était la dernière étape du voyage avec notre camping-car. Depuis la Malaisie, nous avons remis notre véhicule sur un bateau pour qu'il rentre en France. Mmh. Et nous avons passé le dernier mois aux Philippines.
Les pieds dans l'eau.
Les pieds dans l'eau, la tête au soleil.
Magnifique. Quels ont été vos plus gros défis à gérer pendant ce voyage avec les filles? Est-ce que tu as été confrontée à des moments où tu as peut-être eu peur pour la sécurité de tes enfants? Ou est-ce que vous avez eu des pannes qui ont fait que c'est devenu compliqué? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ça?
C'est très étonnant, cette expérience en famille. Nous avons donc 4 filles, l'aînée à 10 ans, puis 8 ans, 5 ans et 3 ans. Elles avaient un an de moins au moment du départ. Nous nous sommes au départ posé la question justement de ce voyage en camping-car en se disant est-ce que ça va être vraiment possible à 6 dans un si petit espace pendant des mois. Et du coup au départ nous avions mis en place cette idée que à tour de rôle mon mari et moi nous avions une journée par semaine où on était seuls, mm-hmm, afin d'avoir un peu d'espace personnel. Ouais. Et voilà.
C'est vrai qu'on peut se dire qu'à vivre tous ensemble tout le temps, on peut peut-être avoir besoin de s'échapper de temps en temps.
Surtout que nous sommes aussi assez indépendants, nous les adultes, mmh, et on travaille tous les deux, donc on se disait on va avoir besoin de ce temps libre. C'est très étonnant, mais on l'a vraiment exploité au tout début du voyage, mmh, et après 2 mois, ce n'était plus nécessaire. Après 2 mois, on était tellement bien tous ensemble que c'était plus du tout nécessaire de poser ces temps. Mmh. Ça a été vraiment étonnant. De plus, les enfants se sont beaucoup apaisés, très vite ont pris le rythme. Donc, au début du voyage, il pouvait y avoir encore des disputes de frères et sœurs et ça a presque disparu pendant le voyage.
D'accord.
D'autres familles qui avaient fait de très grands voyages nous avaient dit cela, mm-hmm, et on ne les avait pas cru. Mais c'est bien comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que pendant le voyage, les enfants sont tellement bien, mm-hmm, tellement détendus, parce qu'il n'y a plus de... Bien sûr, on fait l'école tous les jours, le matin, mais il n'y a plus toutes ces contraintes. Et surtout, peut-être les parents étant tellement détendus, mm-hmm, les enfants se détendent.
Et disponibles, j'imagine, pour les enfants.
Disponibles. Et finalement, on a trouvé très vite un équilibre qui était tout à fait paisible. Il faut voir aussi que le monde était à nous. Notre jardin, c'était le désert, c'était l'océan, mm-hmm, c'était les prairies. Donc, en fait, on n'a jamais souffert du manque d'espace parce qu'en fait, on avait beaucoup plus d'espace que probablement nous n'en avions jamais eu par avant. Mm-hmm. Les choses qui pouvaient être difficiles, ça a été effectivement que, comme on l'avait lu sur les blogs d'autres familles de voyageurs avec un véhicule, il y a toujours, très régulièrement, des petites pièces qui cassent, des choses à changer. Mm-hmm. On s'est donc retrouvé parfois bloqué dans des garages par 40 degrés. Et les enfants ne pouvaient pas sortir parce qu'il n'y avait rien autour. C'était, ouais, la zone et que des morceaux de ferraille cassés partout. Et donc, mais en fait, les enfants étaient bien parce que dans le camping-car, c'était notre maison.
Ouais.
Et du coup, chacun faisait sa petite vie. Une lisait dans un coin, deux autres jouaient au Lego dans la capucine. Mm. La troisième lisait quelque chose d'autre ailleurs. Donc en fait, on était quand même très à l'aise.
Ouais.
Et je peux te dire qu'on n'a jamais eu peur. On s'est véritablement posé la question au retour, parce qu'on ne se l'est pas posé pendant le voyage, mais au retour, on nous a posé la question, et on n'a jamais eu peur.
Ouais.
Une fois, on a eu un coup peut-être de stress, c'est que la petite dernière s'est perdue dans une ville, on a mis une demi-heure à la retrouver, parce que si, il faut dire que nos enfants étaient très libres, de plus en plus libres, et que nous, on était très en confiance, et donc, bah voilà, une fois, on a égaré une petite, une autre fois, on a fait oublier dans un avion... mais en fait, on l'a retrouvée bien sûr très vite.
Ce qui aurait pu arriver également en Europe, c'est pas...
Oui, mais c'est vrai qu'on vivait tout de façon très légère. Mm. Donc du coup, voilà, bon, mais on l'a retrouvée très vite. une autre fois, on s'est fait mordre par un singe. D'abord la petite dernière, puis moi. Donc ça, c'était effectivement des petits moments de stress parce qu'il a fallu trouver les hôpitaux pour aller faire tous les traitements de la rage.
Ouais.
Bon, c'était un peu contraignant, mais finalement, on a continué le voyage comme rien n'était. On avait des injections à faire au temps régulier. On trouvait au fur et à mesure les hôpitaux qu'il fallait pour faire les piqûres. Mmh. Aucune difficulté.
Tu as évoqué l'école à la maison, si je puis dire, l'école du camping-car. Comment ça se passait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu avais préparé? Quel était le rythme que tu as suivi?
L'école est une question très importante quand on part en voyage avec ses enfants. C'est intéressant d'observer que différentes familles s'organisent de façon différente. Peut-être cela dépend beaucoup des enfants et des parents aussi. Dans notre cas, moi, la maman, j'avais déjà une certaine expérience de l'enseignement avec mes enfants, puisque nous avions vécu à l'étranger les 5 années précédant notre départ. Et j'avais assuré le CNED en français et en maths pour mes 2 aînés depuis plusieurs années. Mm-hmm. Donc, je savais déjà que ça fonctionnait bien, qu'on aimait travailler ensemble. Et je savais comment gérer avec mes enfants. Voilà comment nous avons fait. L'école consistait en à peu près 2h30 tous les matins, du lundi au vendredi, en respectant bien les week-ends et les vacances scolaires. Mmh. Vacances scolaires qui, pour nous, dépendaient plutôt de notre programme que des vacances réelles qui étaient appliquées dans notre pays. En général, ça se passait très très bien. Ça s'est toujours très bien passé, l'école, parce que l'on a fixé dès le départ avec les enfants un emploi du temps qui n'était pas modifiable. Donc, il n'y avait pas de questions à se poser. Mmh. C'était défini. Lundi, c'était dictée, puis maths, puis français. Je sais pas, mardi, ça allait être le contraire. Mercredi, c'était, par exemple, histoire et sciences. Mmh. Il y avait aussi 20 minutes de lecture par jour en français et en anglais.
D'accord.
Donc, en respectant aussi des temps de pause. Donc, très vite, en fait, nous, dans notre famille, nous avons mis en place, le matin, un système très régulier pour l'école. Et ça a été vraiment bénéfique. Pour avoir vu d'autres familles qui partaient beaucoup plus bohèmes sur le thème « on apprend à nos enfants à compter dans le sable », ça marchait en général assez mal, parce que les enfants aiment finalement que l'on soit honnête. Et bien sûr que tout le reste de la journée, nous on n'avait que 2h30 d'école par jour, et tout le reste de la journée on continuait à apprendre plein de choses, mmh. explorer plein de choses en famille. Mais pour ce qui est des apprentissages scolaires, c'était finalement plus simple de s'en tenir à des choses scolaires. La dernière chose que je voudrais dire sur ce thème de l'école, c'est que nous nous étions bien préparés. Par exemple, chaque enfant avait sa petite trousse, un petit casque anti-bruit pour pouvoir être concentré, mm-hmm. Des cahiers qu'on avait achetés à l'avance. Elles étaient vraiment heureuses, en fait, de commencer l'école. On a même fait une rentrée scolaire le 1er septembre où on leur a fait avec leur papa un petit discours de bienvenue dans l'école du camping-car. Elles étaient vraiment très contentes de ce rythme, et l'avantage d'avoir un emploi du temps fixe, c'est que même, par exemple, quand moi je n'avais pas envie de m'y mettre, il n'y avait pas le choix. Donc c'était bien, parce que finalement, c'était pas moi qui décidais, ni elle, c'était ainsi. C'était
comme ça. Ça structurait également la vie de famille.
Voilà, absolument. Mmh. Et on avait aussi bien réfléchi à l'avance au support, le CNED en français, une méthode de maths que je connaissais, qui était très chouette, très pédagogique. Pour les sciences, on a téléchargé tous les épisodes C'est pas sorcier, et comme ça elles regardaient sur leur petite tablette un épisode sur les requins, les tortues ou bien l'eau, et elles apprenaient beaucoup de choses, ainsi de suite. On avait bien réfléchi. Pour l'histoire, on a fait programme commun, on a quitté le programme de l'école et on a simplement parcouru un livre qui expliquait l'histoire de France. C'était un régal. Donc l'école s'est très bien passée.
Est-ce que elles ont pu réintégrer leur classe naturellement en rentrant en France ?
Oui, oui, ça s'est très bien passé. Il faut dire qu'elles intégraient une nouvelle école, donc ce n'était pas facile pour elles non plus. Mais l'accueil qu'elles ont reçu était formidable. Et les maîtresses m'ont très vite dit que le niveau était tout à fait correct et que j'avais pas d'inquiétude à avoir. Il y avait des lacunes sur certains sujets, je m'en suis rendu compte très vite. Des choses que nous n'avions pas étudiées, nous. Mais, en fait, vu que j'avais l'habitude de travailler avec mes enfants, on a pu tout de suite remettre à niveau tout ce qui était nécessaire. Donc oui, très facile, aucun problème.
Super.
De toute façon, les enfants ont appris tellement de choses.
Voilà, c'est ce que je voulais te demander. J'imagine que bien au-delà de l'apprentissage scolaire, ce voyage a dû être un apprentissage de chaque instant pour elles. Est-ce que tu as vu pour chacune leur développement ? Est-ce que tu as vu dans quel sens elles ont évolué ? Quels ont été leurs apprentissages particuliers ?
Le point le plus frappant, c'est la prise d'autonomie. Parce que finalement, nos enfants avaient énormément de temps libre. On faisait aussi des visites, bien sûr, de plein de choses. Mais elles étaient très libres. Et elles ont acquis en autonomie, notamment pour les jeux. Mm-hmm. Avant, je devais beaucoup m'interposer dans leurs jeux. éviter que deux se disputent, les aider à ranger ou sortir ceci ou cela. Et elles ont recommencé à jouer, mais à jouer véritablement. Mes deux aînées avaient presque déjà quitté le monde de l'imaginaire, étaient passées beaucoup à la lecture, ce qui est formidable. Mais en fait là, tout d'un coup, ça a été une explosion dans le monde de l'imaginaire. Mmh. Ça a énormément soudé les enfants et aussi elles ont pris de l'indépendance. Et ça a été très bénéfique aussi à l'école parce qu'elles sont tout à fait indépendantes. Mmh. Elles ont bien compris que quand elles travaillent, quand elles apprennent, c'est vraiment pour apprendre quelque chose et pas parce que ça leur est imposé, que le temps est imposé comme ceci. L'autonomie. Et aussi certainement une vraie confiance en l'autre. On a rencontré des gens de tous les pays. Elles ont été amenées à jouer avec des enfants du monde entier, à visiter des écoles. Et je crois que ça leur a ouvert les yeux sur la réalité tellement plus complexe et riche et magnifique du monde que celle qu'elles connaissaient jusque-là.
Ouais.
On a aussi beaucoup remis le jeu au centre de notre vie et le plaisir. Le bonheur, le plaisir. C'est-à-dire que la vie n'est pas juste, même pour nous les parents, une suite de tâches ménagères et familiales à enchaîner, mais ça peut être du bonheur et du bonheur. Et il faut jamais, jamais, maintenant j'espère surtout, ne pas oublier ça à l'avenir.
Savourer, apprendre à savourer la joie d'être ensemble, simplement.
Et aussi ne pas s'encombrer de beaucoup de choses qui remplissent nos vies et qui sont vraiment parfois des pertes de temps.
Ouais.
Par exemple, nous n'avons pas encore récupéré tout notre déménagement. On a donc assez peu de jouets. Et c'est extraordinaire, ça suffit largement. Mmh. Je ne sais pas comment...
Alors qu'on a tendance à encombrer les chambres de nos enfants avec des cadeaux superflus.
Mais ça se fait naturellement, parce que les anniversaires et les Noëls se succèdent, on passe d'un enfant à l'autre. Mais en fait, ce débordement matériel laisse les enfants les bras ballants. Et finalement, c'est pas une blague, avec très peu de choses, ils s'amusent beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus.
Ouais.
J'ai des grandes de 8 et 10 ans qui jouent au Duplo.
Ouais.
C'est à mourir de rire, mais c'est parce qu'en fait, c'est des terrains, ce sont des jeux très simples, mais qui leur permettent de partir dans des jeux dans l'imaginaire.
Tout à fait. Ouais. Quels ont été les enseignements que tu as pu tirer de ce voyage pour votre vie de famille, à votre retour et pour l'année qui se profile ?
Pour la première fois de nos vies de parents, nous avions le temps. Le temps pour tout, le temps pour être détendu, pour prendre un petit apéro tranquille, pour jouer aux cartes avec nos filles, pour aller visiter ceci ou pas, pour aller parler avec ces personnes-là ou pas. Le temps d'accueillir l'autre, que ce soit au couple, dans le couple ou avec nos enfants. Et l'enseignement que je vais garder, c'est par exemple d'essayer probablement de ménager ce temps dans nos emplois du temps, c'est-à-dire... Surtout, peut-être, ne pas repartir trop vite dans une vie dans laquelle on enchaîne, par exemple, les activités. Pareil pour nous, les adultes. Essayez vraiment de garder une vie très simple. Parce que le temps de qualité passé en famille et aussi le plaisir, c'est des choses irremplaçables qui, finalement, donnent une touche très colorée à ce que l'on vit. Un autre apprentissage, évidemment, c'est qu'on n'a pas encore réussi complètement à réintégrer la vie très matérialiste, finalement, qui est la nôtre. On a tous les deux, mon époux et moi, des métiers qui nous permettent d'avoir des bons salaires, qui nous permettent éventuellement d'avoir un certain luxe, d'avoir des beaux objets autour de nous. Et en fait, plus que jamais, ce n'est pas le bonheur. Et si possible, garder une vie simple aussi de ce côté-là. Se souvenir de tous ces gens que l'on a rencontrés, qui ont des vies tellement plus simples, qui ont des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins d'objets autour d'eux, beaucoup moins de choses à manger, beaucoup moins de richesses dans ce qu'ils peuvent faire, même d'ailleurs dans les explorations qu'ils peuvent faire, mais qui sont très heureux comme ça. Et en fait, remettre l'humain au centre. Autre chose, la nature. On a passé 9 mois dehors. Qu'il fasse trop chaud, trop froid, qu'il fasse un temps parfait, ce lien à la nature a été une chose très importante et on veut absolument garder ce lien-là dans les années qui viennent. Ce contact avec la nature, les éléments, les animaux, écouter les bruits de la nature.
Et pour ton couple, tu as évoqué un petit peu ton couple, est-ce que vous avez l'impression d'être sorti grandi, plus proche, ou est-ce que ça vous est arrivé de vous disputer, j'imagine, peut-être pendant le voyage? Est-ce que ça vous a renforcé, ça vous a rapproché, ce voyage?
Je pense que oui, on était tellement bien ensemble, tout simplement. Comme des jeunes amoureux, on a pu avoir beaucoup de temps ensemble, sans contraintes, sans l'angoisse, sans toutes les angoisses qui sont reliées notamment aux difficultés au travail, tous les problèmes que l'on peut avoir dans la vie normale. Là, il se trouve que nous étions dans une sorte de bulle un peu épargnée, et qu'on avait du temps tous les soirs pour regarder les étoiles, pour faire des jeux de cartes. C'était vraiment extraordinaire. On était vraiment comme deux amis. C'était un temps en couple aussi vraiment merveilleux. Maintenant, il y a eu bien sûr des disputes, mais très peu, je dirais. Très peu parce qu'il n'y avait pas non plus de sujet de dispute. Parce qu'on n'était pas stressés, on était heureux, et qu'il n'y avait finalement rien qui pouvait ternir vraiment notre relation.
Et que le ménage était vite fait dans le camping-car.
Il y avait bien sûr des sujets. Alors, il faut voir aussi que quand on part, on emporte en bagage tout ce que l'on laisse derrière soi. Donc, il y a eu quand même des discussions très sérieuses, parce que ça a été l'occasion aussi de réfléchir à certains grands choix de vie. Pourquoi est-ce que l'on a pris telle ou telle décision? Est-ce que l'on était finalement satisfait avec ces décisions? Donc ça a aussi été un temps assez intense, et il y a eu bien sûr des disputes, des discussions acerbes sur certaines décisions que nous avions prises. Quand on part comme ça, tout ce qui pèse dans la vie de tous les jours, certaines choses disparaissent, comme par exemple ce qui est relié au travail, mais les soucis, par exemple, j'en sais rien, les soucis de longue date sur la belle famille, les soucis de ceci et de cela, restent là et sont des sujets de discussion, et ça bien sûr, on... Et quand on rentre d'ailleurs, on se retrouve au même point qu'au départ. Mais ça a été aussi une année très chouette pour nous, parce que ça a été une année très priante. Il se trouve que nous sommes catholiques pratiquants, et qu'on a eu pendant cette année-là le temps de prier ensemble, le temps de vraiment approfondir notre foi ensemble. On avait le temps, tout simplement.
Ouais. Pour toi, en tant que mère, est-ce que ce voyage a provoqué des changements en toi? Est-ce que tu as l'impression d'aborder ta maternité d'une façon différente?
Ce qui a été formidable, c'était le fait d'avoir enfin beaucoup de temps avec mes enfants sans la contrainte du quotidien. Parce que quand on doit gérer une maison, des activités, des écoles, etc., et un travail, moi en tout cas, je passe beaucoup de temps à courir partout, je ne peux jamais me poser. Je suis toujours en train de m'occuper de ceci, la petite dernière, de débarrasser une machine, de faire un truc de ménage, d'organiser le prochain dîner ou les prochaines vacances. Ce qui a été extraordinaire là, c'est qu'il n'y avait rien à faire, parce qu'effectivement, un camping-car, il n'y a quasiment rien à faire. C'est juste absolument pratique, il n'y a quasi aucun entretien. Et donc, j'ai pu beaucoup observer mes enfants et les aimer encore plus, les redécouvrir encore plus. C'était tellement, tellement chouette. Et en plus, pas toute seule, mais avec mon mari. Parce que beaucoup de mamans à la maison peut-être vivent ça. Mais ce qui était extraordinaire, c'était en plus de pouvoir le partager à deux. Les perles de la petite troisième qui nous disait des choses tellement drôles. La première qui nous faisait déjà tellement rire, qui commence déjà à aller vers l'adolescence. La deuxième qui avait des inventions invraisemblables. Ça nous a permis en fait de passer vraiment du temps de qualité en continu avec nos enfants, et aussi de partager beaucoup d'activités avec les unes et les autres en tête-à-tête.
D'accord. Et j'imagine que vous êtes content d'être rentré, mais est-ce que ça vous titille de repartir peut-être bientôt?
Alors là, à nouveau, il s'agit toujours d'une dynamique familiale. Moi, personnellement, oui, je me réjouis du prochain voyage. D'un autre côté, je sais que maintenant, on doit s'installer pour de bon. C'est nécessaire pour les enfants, c'est nécessaire pour nos carrières respectives. Mais si Dieu nous prête vie, je pense qu'on repartira. Que ce soit avec nos enfants, grands adolescents, jeunes adultes, ou bien en amoureux plus tard. C'est tellement de bonheur, un voyage comme cela, et en plus c'est tout à fait raisonnable d'un point de vue financier, qu'il n'y a aucune raison en fait de ne pas le faire. L'apprentissage que nous avions eu pendant notre premier voyage en amoureux, en jeune fiancé, c'était que quand on part comme ça, la terre continue de très bien tourner sans nous. C'est fou ce qu'on est peu indispensable, mais par contre ce que l'on vit en couple, ce que l'on vit avec nos enfants, ça, ce sont des cadeaux qui sont là pour toujours. Donc, c'est une expérience à vivre et à revivre.
Super, ben, je te remercie beaucoup Clémentine de nous avoir fait partager ton expérience. Je te souhaite un bon retour en France, un bon atterrissage et à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci Amélie.
Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Je trouve que c'est un très bel exemple d'une famille qui construit sa propre histoire avec sa propre dynamique, en offrant une expérience unique et une ouverture sur le monde extraordinaire à leur fille. Nous ne sommes pas forcément tous des globe-trotteurs, mais je pense que les enseignements de ce voyage sont valables pour nous tous. Personnellement, je suis très touchée par ce qu'a dit Clémentine à propos du temps passé en famille qui est un cadeau irremplaçable. Je vous laisse donc quelque part entre Venise et Phnom Penh pour vous retrouver d'ici peu avec un autre portrait d'une warrior du quotidien. Et en attendant, rendez-vous sur la page des French Moms pour plus d'infos et d'articles. À très bientôt !